Nous sommes très heureux d'être avec vous. Ça fait toujours un grand plaisir de venir ici, puisqu'on se connaît de longue date. Et on est content de pouvoir continuer les uns les autres à nous porter mutuellement dans la prière devant le trône de la grâce de Dieu. C'est un grand privilège d'être enfant de Dieu, un grand privilège de connaître le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous conduit jour et nuit et qui nous garde. Ce matin, le sujet que j'aimerais approcher ou aborder peut être intitulé « L'homme paisible ». Et Marcos a déjà démarré dans ce sujet-là, c'est formidable. Nous restons sur cette recherche de l'homme paisible, l'homme paisible. Et pour cela, j'aimerais m'arrêter dans l'épître de Paul aux Romains, sur quelques points du chapitre 12. Mais d'abord, peut-être vous rappeler un peu le contexte du chapitre 12, qu'est-ce qui se passe dans l'épître de Paul aux Romains, pour que nous puissions en avoir une partie de la richesse. Dans les premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains, en réalité, il nous présente tout d'abord que pour lui, pour Paul, l'apôtre, il n'y a qu'une chose qu'il recherche n'importe où, c'est le Christ crucifié et ressuscité. Lui, il veut transmettre ce que nous avons chanté, que Jésus suffit vraiment pour la vie, pour la découverte du salut en Jésus, mais que Jésus suffit aussi effectivement pour la sanctification, pour la marche à partir de la nouvelle vie, Jésus est encore une fois le suffisant. Et dans ces premiers chapitres de l'épître de Paul qu'il écrit aux Romains, il veut d'abord développer dans un premier temps combien le monde est profondément perdu en ayant fait à sa propre tête. Il nous dit même inexcusable, puisque nous avons rejeté le Dieu créateur, puisque nous ne réagissons pas sur la conscience, nous sommes devenus inexcusables, et de ce fait, en l'ayant rejeté, en rejetant Dieu, il nous explique que Dieu nous livre à des pensées qui sont perverses, il nous livre à ce qui est complètement pourri dans notre être séparé de Dieu. Puis il nous rappelle que Dieu lui-même a pourvu avec un sauveur. Et tout en déclarant qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul, il nous présente de suite la réalité qu'il y a le Messie, qu'il y a le Christ, qu'il y a le Sauveur pour tous ceux qui acceptent le moyen que Dieu a choisi pour sauver la vie. Dieu a choisi Jésus. Si tu choisis le même moyen, tu es sur le chemin du salut. Accepter le moyen que Dieu a donné pour arriver au salut. Il continue à développer alors comment, au travers de la mort de Jésus, nous sommes justifiés, rendus justes. Vous qui êtes nés de nouveau, ceux qui ont donné la vie à Jésus, j'espère que vous êtes remplis de joie à la pensée que Dieu le Père, le Créateur de l'univers, te voit, toi, comme juste, justifié par le sang de Jésus. Peut-on imaginer? Je dis quelquefois à Dieu, mais moi, je ne peux pas me voir comme ça, Seigneur. Moi, j'ai une autre vision de ma vie. Je vois tant de choses qui doivent changer, qui doivent être modifiées pour te plaire. Et toi, Père, tu me regardes au travers de Jésus. Et l'apôtre Paul continue dans le chapitre 7 pour déclarer qu'il y a une bataille qui est en nous. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, dans ce corps, nous vivons dans une bataille. Dans notre nouvelle vie, dans ce que nous avons compris dans la Bible, nous avons découvert que la paix de notre cœur, elle se situe dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais je découvre en moi des principes de désobéissance qui sont résistants. Et c'est une bataille. Et à la fin du chapitre 7, l'apôtre Paul déclare « Mais misérable que je suis, qui me délivrera de cette bataille où je veux faire le bien et j'accomplis quand même le mal ?» Et il déclare « C'est en Jésus-Christ que je peux être délivré et que, chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Les premiers chapitres, il les développe dans cette pensée du salut personnel, du salut que tu peux avoir, que tu as, j'espère déjà, que tu as si tu as donné la vie à Jésus. Et ensuite, dans les chapitres 9 à 11, il développe le plan de Dieu pour tous les peuples et pour Israël, en montrant que Dieu avait un plan pas simplement pour un salut personnel, mais Dieu a un plan pour les peuples, Dieu n'a pas délaissé Israël. Dieu n'a pas laissé les païens perdus. Dieu ne nous a pas oubliés, nous, les païens. Il veut le salut. Et après, j'en arrive à cette partie de l'épître de Paul aux Romains, à partir du chapitre 12, où il part dans l'application pratique. C'est comme s'il disait, chapitre 1 à 8, « Voilà ce que Dieu a fait pour toi, toi qui cherches Dieu, toi qui veux découvrir le salut, voilà ce qu'il a fait pour toi. » Et puis au chapitre 12, il continue, « Maintenant je te dis, comment tu peux vivre pour lui ? Je t'ai montré dans les premiers 8 chapitres ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, je vais te dire comment tu peux vivre dans la paix en vivant pour lui. » Et je lis le début du chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce chapitre 12, on remarque très bien dans ce premier verset comment il est une suite du chapitre 9, pardon, du chapitre 8, où il y a cette parenthèse du 9 à 11. Parce que le chapitre 8, à la fin, c'est un rayonnement de bonheur. Parce qu'il nous dit au chapitre 8, à la fin, que personne ne peut plus te condamner quand tu es en Jésus. Tu n'as plus rien à craindre, ni la mort, ni les puissances, ni quoi que ce soit, rien ne te séparera de Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul voulait insister sur le fait « Sois conscient de l'identité que Jésus te donne. Tu as tout reçu en lui. Et parce que tu as tout, tu n'as pas besoin maintenant de tenir ta propre vie. Tu n'as pas besoin de maintenir ta vie. Puisqu'il t'a tout donné, avec toutes les assurances, maintenant, qu'est-ce que tu as à faire ? Maintenant, offre ta vie. Offre ta vie. » Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vois l'apôtre Paul rempli d'amour pour le peuple, rempli d'amour pour ceux qui croient au Seigneur, rempli d'amour pour l'humanité et qui voudrait implorer son auditoire et ses lecteurs, les implorer. Par les compassions de Dieu, fais quelque chose, ne tiens pas ta vie toi-même. Par les compassions de Dieu, n'essaye pas de te construire toi-même. N'essaye pas de te faire une identité avec ce que tu sais. Par les compassions de Dieu, offre ta vie, offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Vous voyez ce que c'est le culte raisonnable ? C'est formidable, hein ? Le culte raisonnable, c'est d'être conscient. Nous laissons, nous offrons cette vie, nous l'offrons à Dieu. Il nous a sauvés, pourquoi ? Pour avoir notre vie, pour qu'elle soit utile pour lui, pour qu'elle puisse vivre de lui et en lui. Ce nouvel homme, il nous le montre dans le chapitre 12. D'abord, ce fait d'offrir notre vie à Dieu, le corps aussi. Si tu as, comme moi, tu as besoin aussi que ton corps soit offert à Dieu. Sinon, tu vas passer toute ta vie terrestre à être préoccupé par ton corps. Dieu connaît chaque cellule de ce corps, du tien aussi. Et ce corps lui appartient. Et ce corps, il l'a donné, il me l'a laissé encore comme outil qui doit être favorable pour transporter sa paix, pour transporter sa vie. Un outil, mais un outil dont il prend soin. Bien sûr, un outil dont moi aussi, je dois prendre soin. J'en suis responsable. Mais c'est lui qui tient la vie. Personne ne peut tenir la vie du corps. Que Dieu tient la vie. C'est lui qui tient la vie. Offrir le corps comme un sacrifice vivant, saint. Saint veut dire mis à part. Mis à part pour lui. Mis à part. Tu es d'accord que tous les membres de ton corps sont mis à part pour lui ? Que tes mains sont pour son service ? Que tes oreilles sont les oreilles qui écoute comme un disciple peut écouter. Que ta bouche aussi, qui est tellement difficile, la langue qui est tellement difficile à dompter, selon l'épître de Jacques, c'est la plus difficile des maîtrises que nous avons dans la vie sur terre, c'est de maîtriser notre langue. C'est pour les héros de la maîtrise, pour ceux qui font des exploits surnaturels, la maîtrise de la langue. Mais tout cela est offert à Dieu et devient un culte raisonnable. Dans ce culte raisonnable, il y a une partie qui est importante, qui va de suite marquer notre vie, c'est notre comportement. Dans le chapitre 12, que nous allons survoler rapidement, mais dans le chapitre 12, nous allons découvrir qu'il y a deux attitudes essentielles pour ceux qui ont offert leur vie à Jésus, qui l'ont donné à Dieu. Il y a deux attitudes qui sont dans ce chapitre, les versets 3 jusqu'au verset 8, c'est l'humilité, et à partir du verset 9, c'est l'amour. Ce sont les deux points essentiels que vous trouvez ici dans le chapitre 12. Je reviens au premier et deuxième verset. Une fois que notre vie est offerte à Dieu, nous sommes conscients que nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Le diable n'est pas maître de notre vie. Si nous avons pratiqué certaines choses diaboliques, nous pouvons les confesser. Et le Seigneur Jésus nous délivre. Il purifie nos vies. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Si nous avons reçu Christ comme sauveur, nous l'avons reçu aussi comme celui qui est maître de notre vie. En ayant ce nouveau maître, le verset 2 nous rappelle « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand tu as reçu Christ dans ta vie, il y a un désir profond qui s'installe dans ton cœur. Tu veux lui plaire. Tu veux lui plaire. Tu veux connaître sa volonté. Et lui, il fait tout pour que tu découvres sa volonté. Lui n'essaye pas de cacher sa volonté. Loin de là, il t'aime. Et toi, tu désires connaître sa volonté. Mais maintenant, il faut que tu saches que depuis que tu as Christ, ta pensée n'a plus les mêmes socles, plus les mêmes bases. Tu ne penses plus comme la société pense. Tu n'as plus les mêmes valeurs que la société. Tu ne mets plus en exergue les mêmes valeurs, les mêmes principes. Notre société est conduite par le prince de ce monde. Et le prince de ce monde travaille toujours dans le même domaine, de la même façon depuis le début, depuis aussi la tour de Babel, depuis la chute, toujours dans la direction de l'orgueil et du pouvoir. Et ces deux éléments sont exactement ce qui a été la chute du diable, de cet ange merveilleux. L'orgueil, vouloir être plus grand, et pouvoir, vouloir diriger les autres, avoir une autorité et un pouvoir sur les autres. Et voilà que maintenant, toi, dans ta nouvelle vie, tu sais que ma réflexion doit changer. C'est d'ailleurs pour ça que tu lis la Bible, parce qu'elle est toujours en train de purifier ta réflexion, pour corriger le tir, pour que lorsque les pensées viennent, des pensées de l'orgueil qui est encore en moi et du désir de pouvoir qui peut y être, que toutes ces choses-là soient toujours à nouveau mises à nu, dévoilées par la parole de Dieu. La Bible est comme un miroir qui continuellement me jette de nouveau la vérité en face pour me montrer « Dani, fais gaffe, là tu es sur une peau de banane. Là tu dois te repentir. » Et en réalité, tu découvres que tu as une grande liberté de ne pas vivre comme tout le monde vit. Tu n'es pas esclave de l'entourage. Tu n'as pas été simplement formaté par un système dans lequel tu vis. D'un coup, en Christ, tu peux faire autrement. Tu es devenu libre. Depuis longtemps, tu voulais faire le bien et tu y es arrivé. Et en Christ, maintenant, enfin, tu reçois la force pour faire le bien que tu désires t'en faire. La liberté, c'est de faire enfin le bien. La liberté, c'est de pouvoir enfin aimer. La liberté, c'est de pouvoir enfin vivre pour les autres et m'oublier. Il n'y a pas de plus grande liberté pour l'être humain que d'être détourné de lui-même. La liberté de Christ. Ne vous conformez pas au monde présent. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'apôtre Paul y dit pour être légaliste, pour dire, ouais, attention au monde, fais gaffe, tu n'as pas le droit de faire comme eux. Non, tu es libre de ne pas faire comme eux. C'est tout autre chose. Tu as la joie de continuer à vivre dans ta dépendance avec le Seigneur Jésus, de lire la parole de Dieu et de l'appliquer dans le quotidien. Tu as la joie de penser autrement que d'autres personnes. Là où d'autres s'esquintent pour avoir matériellement des choses qui à tes yeux paraissent inutiles, toi, tu peux continuer à les regarder comme inutiles et tu es libre de ces choses-là. Tu es devenu libre pour être quelqu'un qui peut vivre et donner pour que d'autres puissent vivre. C'est ta vie dans le Christ. Paul regarde dans l'Église. Paul, l'apôtre, est un amoureux des Églises. Parce qu'il faut être amoureux de l'Église pour pouvoir pleurer pour elle. Et il dit qu'il a versé des pleurs à cause des Églises. C'est que son cœur était profondément touché quand quelque chose n'allait pas dans la direction de la parole de Dieu au sein des Églises. L'apôtre Paul était profondément touché dans son être. Il désirait tant que Christ soit la tête de l'Église et qu'il reste la tête de l'Église et qu'il soit le chef de l'Église. Il regarde dans l'Église et il dit, voilà, comment est-ce que je vais découvrir cette femme, cet homme qui a offert sa vie à Jésus-Christ et qui est en train de vivre en se détournant des pensées du siècle présent qui ne se conforment pas aux pensées de ce monde, qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Comment je vais découvrir cette personne? Ça doit être un héros, ça, non? Il dit, je lis, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Tiens, il nous dit que la première page du carnet d'identité de cet homme paisible, de cette femme paisible, la première page, c'est l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas une prétention exagérée de ce qu'il vit et de ce qu'il peut vivre, mais où ce qu'il réfléchit est en accord avec la foi qu'il a reçue. Je connais la fragilité, en partie, la fragilité de ma foi. Je connais comment elle est difficile à réellement déposer, croire réellement en Dieu. Je ne sais pas comment tu es quand tu n'as plus rien, par exemple, et qu'il faudrait quelque chose que tu ne peux pas organiser, que tu ne peux pas avoir, etc. Et que tu pries pour avoir cette chose-là, parce qu'elle est indispensable. Tu as remarqué aussi que la foi est fragile, qu'on expose quelque chose et très rapidement, on porte de nouveau le souci, on l'expose de nouveau, on le reprend de nouveau. On a l'impression, ah, maintenant j'ai pu croire. Et puis 10 minutes plus tard, quand même, je suis déjà nouveau organisé au cas où ça n'irait pas. Quelle fragilité! Et si je remarque la fragilité de ma foi, de ma confiance en Dieu, je peux réaliser combien l'humilité doit être une marque normale de la vie spirituelle. En sachant, je suis petit, nous sommes petits devant cette grandeur du Seigneur. Et c'est l'humilité qui nous donne le plus grand accès véritable envers tous les autres cœurs. C'est ton humilité qui permet à d'autres d'être à l'aise de s'approcher de toi. C'est ta simplicité, ta petitesse qui permet à d'autres de venir s'appuyer sur toi en disant leurs problèmes et en te demandant d'intercéder pour eux. Ce n'est pas la force de bons conseils qui va faire rapprocher les gens vers toi. C'est la simplicité, ta dépendance avec Dieu qui va tirer les cœurs lourds vers toi pour rechercher en toi quelque chose où ils savent, tu ne peux pas leur donner, mais Dieu peut le leur donner. Celui qui vit en toi peut le donner. C'est cette première partie dans ce chapitre 12. Il nous montre, voilà, nouvelle nature, offert la vie à Jésus, tout donné, on a tout donné, en fin de compte, notre vie, et dit maintenant tu n'as pas besoin de te gonfler, tu peux être ce simple gars qui dépend du Seigneur Jésus, qui dépend de la grâce de Dieu, qui a besoin de parler avec lui, et tu n'as pas besoin d'être fort. Dans le royaume de Dieu, c'est intéressant, et aussi dans les églises, dans mon expérience des petites 45 années de ministère, les faibles n'ont jamais été un problème dans l'église. Les faibles, on a toujours pu, en fin de compte, voir comment Dieu les utilise et comment ils sont prêts à servir et comment Dieu leur donne de plus en plus de possibilités, de capacités à servir. C'est toujours à nouveau, au travers de toute l'Écriture, nous le voyons, c'est toujours à nouveau l'orgueil et la recherche de pouvoir qui bloquent les relations humaines, même au sein des églises. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul met tellement son focus là-dessus, la cible là-dessus, en disant, voilà, soyez simple dans le sens que vous savez qui vous êtes, dans la solitude devant Dieu, vous savez combien vous avez, tu sais comme moi, combien tu te bagarres avec certains soucis pour les déposer toujours à nouveau devant le Seigneur, et comment tu te bats pour avoir plus de la foi, comment tu veux avancer dans la confiance en lui. Je continue un peu le texte, vous tenez encore, ça va? Parce pas que je suis seul à la fin en train de parler. Ok. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. L'Église, un corps. Nous tous ensemble, avec chacun des dons reçus de Dieu. Et aucun qui n'a reçu un don pour son égoïsme. Et Dieu les a distribués les dons comme il le veut, selon l'Écriture, pour l'utilité commune. Et c'est tellement beau de pouvoir se servir l'un l'autre, être là pour que ce que moi je peux faire pour d'autres, je peux effectivement l'accomplir en toute simplicité. Les dons, tous les dons utiles. Et tous les dons dans l'Église restent utiles lorsqu'ils sont marqués par l'humilité. On n'est pas en recherche. Dans l'Église, on n'est pas en recherche d'être là-devant. Hein. Moi, je ne suis pas en recherche de ça. Hein. Dans l'Église, on est en recherche de transmettre entre nous de nous comprendre mutuellement, de mieux saisir les besoins de l'autre, afin que je puisse mieux intercéder pour l'autre, de mieux réaliser lequel est en train de peiner et de passer par une vallée difficile, où il aurait besoin peut-être juste d'un coup de fil pour lui dire, « Dis, j'ai vu ton visage, t'es chargé, t'es d'accord que je prie avec toi au téléphone ?» Peut-être juste. L'Église, les différents dons. Parce que l'ambition du corps, elle est là, du corps local, il y a une ambition qui veut que nous atteignions ensemble le but. Ce n'est pas moi qui dois arriver au but. Nous voulons ensemble atteindre le but. Marcher ensemble. Et c'est dans cette attitude-là, seulement dans cette attitude d'humilité, que nous allons marcher ensemble. Si l'humilité n'est pas là, les plus faibles dans le corps local, dans l'Église, auront toujours à nouveau une part très difficile, parce qu'ils se sentiront peut-être délaissés. Si l'humilité est là, nous pouvons tous nous porter les uns les autres. Mon dernier point, ça va ? Vous ne réagissez pas, donc j'espère que c'est vrai. Ça va, hein? OK. Ce nouvel homme, on a vu ici qu'il a une particularité. Il porte la marque de la modération. Dans le texte, il est dit, là où je parle d'humilité, d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. En quoi est-elle utile dans l'Église, la modération ? La modération, c'est cet esprit, cette façon, cette attitude où aucun ne place un joug sur l'autre. Tu vis certaines choses avec le Seigneur, avec l'Évangile. Ce que tu vis, tu ne le vis pas pour faire pression sur un autre. La modération, c'est de savoir tout simplement, nous sommes ensemble et chacun marche avec le Seigneur dans la vitesse, dans sa vitesse personnelle. Chacun va essayer d'encourager l'autre pour garder le regard vers le Christ et être fortifié. Mais on ne parlera pas d'exploits qui ne sont pas vrais. On va être vrai dans notre vie de disciple. On ne va pas faire semblant que tout nous réussit. On va être vrai. Et en étant vrai, en fin de compte, il y a une modération. C'est-à-dire que tout garde un certain équilibre et nous avons les uns besoin des autres pour marcher ensemble, d'un même pas. Mon dernier point, à partir du verset 9, c'est la deuxième partie que Paul montre, la première étant cette modération, cette humilité, cette attitude de cœur, et la deuxième où, en partant de l'attitude de cœur, il part de la personne vers les autres et il parle de l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je trouve l'école de Dieu est merveilleuse. Être dans l'école de Dieu, c'est quelque chose de vraiment particulier. Parce que Dieu fait tout dans la croissance de ta vie. Dieu fera tout pour que tu sois détaché de toi. La croissance de l'amour, c'est le détachement de notre propre personne. Aussi longtemps que nous veillons tellement sur nos propres vies, il y a même des chrétiens qui veillent égoïstement sur leur propre sanctification. Alors que la sanctification, pour s'approcher plus de Dieu et être purifié davantage, la sanctification a besoin des relations humaines pour être sanctifiée. Parce que quand moi je suis tout seul, je peux être à peu près saint. Sauf dans les pensées, bien sûr, mais comme ça. Hein? Mais si vous me mettez dans une équipe de personnes avec différents tempéraments et différentes cultures, je peux être à peu près pénible. Et la sanctification a besoin de la relation humaine. Et c'est l'amour, justement, la vie, l'investissement envers les autres qui nous aide à nous détacher de nous-mêmes. C'est pour ça aussi que Dieu voulait que nous entrons dans l'amour et que nous le pratiquons. Et en pratiquant l'amour, tu grandis spirituellement, sans avoir contrôlé ta croissance. Dans notre société, on a beaucoup l'habitude d'évaluer, de contrôler, de savoir dans quelle étape on est maintenant, qu'est-ce qui manque, etc. Okay? Mais dans la marche spirituelle, le contrôle est à peu près simple. Aussi longtemps que je vis pour moi-même, je sais que le contrôle est négatif. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie livrée. Ce n'est pas encore offert la vie à Dieu. Alors c'est encore moi qui suis le chef de mon existence. Alors c'est moi encore qui dois décider. Mais le moment où je suis d'accord de lui donner la vie et de savoir qu'il se soucie pour moi, il a pris l'initiative et l'alliance de me porter. Tu es enfant de Dieu, Dieu a pris l'initiative de te ramener au ciel. C'est formidable quand même, hein, comme initiative. Et toi, tu peux rester dans cette paix. Je termine, qu'est-ce que c'est l'homme paisible? Le sujet, c'était l'homme paisible. L'homme paisible, dans ce texte-là, c'est en fin de compte celui qui a été d'accord de remettre toute sa vie à Dieu. Et qui est d'accord que les nouveaux principes de son existence ne sont pas les principes que l'on voit dans ce monde, qui sont gérés dans ce monde. Les nouveaux principes, le nouveau raisonnement est dans la parole de Dieu. Le nouveau raisonnement est dans les commandements de Jésus. C'est le nouveau raisonnement. Et cet homme paisible est conscient qu'il est consolé parce qu'il a un consolateur. Cet homme paisible est paisible aussi parce qu'il n'a pas besoin de se valoriser lui-même. Il peut être humble. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un ou de se faire quelqu'un. En étant au Seigneur, tu es enfant de Dieu, il n'existe aucun grade supérieur dans le ciel et sur la terre que être enfant de Dieu. Et ça, tu l'es. Donc toute la bataille pour se valoriser, elle est tombée. Tu peux être tout simple dans les bras de Jésus. Et cet homme nouveau paisible, il est paisible parce qu'il a commencé à vivre pour les autres. Pourquoi il est paisible en vivant pour les autres? Parce que étant enfant de Dieu, d'après l'Écriture, notre conscience, elle est marquée par la parole de Dieu, et celui qui aime a une bonne conscience, une conscience en paix. Voilà quelques pensées. J'aimerais tant vous embrasser, vous encourager. Je ne peux pas vous embrasser parce que j'ai un peu la crève. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, ce truc que j'ai attrapé. Mais en tout cas, je peux vous dire que la vie avec Jésus est super. Beaucoup de batailles avec l'ennemi numéro un, qui est celui qui ne veut pas que l'Église vive, l'accusateur des frères, celui qui bientôt va être jeté dans l'étang de feu après que Jésus aura envoyé un ange avec une chaîne pour le lier, selon l'Écriture. Super d'être enfant de Dieu, avec une deuxième bataille, la bataille de ma propre nature. Et cette propre nature, elle est vouée tout simplement à toujours à nouveau être délaissée, tout donner à Christ et tout attendre de lui. Et je crois que avec ce bonheur, on peut traverser la vie en comptant sur cette fidélité de Jésus, cette fidélité du Consolateur jour et nuit, qui nous permet de grandir dans l'attitude juste pour être ensemble disciples de Jésus et nous motiver, nous encourager mutuellement. J'aimerais encore prier. Tu es le bien-aimé, Seigneur Jésus, tu es celui qui est rentré dans notre existence. Tu as bouleversé notre raisonnement. Ta parole est un joyau extraordinaire. Seigneur, remplis-nous de toi. Merci parce que tu nous accompagnes, chacun d'entre nous. Nous ne savons pas ce que cette nouvelle semaine apporte devant nous, Seigneur. Nous ne savons pas quelle sera la mesure de difficulté ou de bataille, mais nous savons que tu seras avec. Quel bonheur, Seigneur. Et nous savons que le Consolateur est là. Tu nous conduis, tu nous protèges, tu nous gardes. Seigneur, tu connais le pays, la ville, le nombre de personnes qui se perdent, qui ne te connaissent pas, qui ont été égarés par les pensées de l'ennemi. Nous plaidons devant le trône de la grâce, Seigneur. parce que nous désirons qu'il y ait des milliers de plus qui t'adorent, parce que tu es le seul digne de recevoir l'adoration d'un peuple nombreux. Ô Jésus, sauve beaucoup de vies encore dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Poursuis ton œuvre pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Et garde-nous tous et un chacun attaché à toi. Merci de tout cœur, Jésus. Amen. Et merci de votre attention.